Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Tech & Co, le débrief de l'actu tech, pour débuter de 20h à 21h avec nos experts. Et ce soir, sur le plateau, Frédéric Simotel, bien sûr, vous le savez, fidèle au poste. Comme chaque soir, bonsoir Fred, journaliste à BFM Business, et en face de Frédéric, nous avons ce soir Didier Sens. Salut Didier.
Hello.
Journaliste spécialisé dans la tech depuis quelques années, on va dire, on va pas rentrer dans les détails, hein Didier.
Non.
C'est pas la peine. Et à tes côtés, Michel Lévy, Provençal, nous fait l'amitié d'être là. Salut Michel.
Bonsoir François.
Prospectiviste, fondateur de TEDx Paris. Prochain rendez-vous en juin prochain.
11 juin.
C'est déjà un carton au Grand Rex.
Oui, c'est sold out.
Voilà, on en reparlera.
Okay.
Parce que c'est vraiment un rendez-vous important. Après 5 ans d'absence due entre autres au Covid, voilà, le TEDx à Paris revient. Tu es aussi fondateur de l'agence Brightness. Voilà, pour les présentations. Alors, on l'a dit, beaucoup de sujets, encore une fois, ce soir. Bien sûr, on va parler de Google tout à l'heure à partir de 20h30 avec Clément David. Vous le savez, Clément David, c'est le patron de Paddock qui vient souvent débriefer l'actutech. Il est avec nous à Las Vegas. Il sera avec nous en visio pour nous raconter un petit peu l'ambiance de ce grand rendez-vous cloud organisé par Google et puis un petit peu les tendances, hein, puisqu'il y a pas mal de partenaires français hein, qui se sont raccrochés à tout cela. Orange, notamment, c'est intéressant, on en parlera bien évidemment. Et puis plein d'autres sujets très intéressants, comme par exemple OpenAI et Google qui se sont amusés à aspirer YouTube, en quelque sorte, hein, pour nourrir leur intelligence artificielle générative. Est-ce qu'ils ont le droit? Est-ce que ça pose des problèmes de droits d'auteur, etc.? On évoquera tout ça dans un instant. Mais pour débuter, l'actu tech de ce jour, c'est une association, alors qui traîne depuis un moment, hein, Fred, on en avait parlé dans Tech & Co, je crois que c'était il y a plusieurs semaines, association entre Jonathan Ive. Alors peut-être que vous ne connaissez pas Jonathan Ive, mais ce n'est pas n'importe qui. C'est, on va dire, avec Steve Jobs et quelques autres, l'un des piliers d'Apple de la grande époque.
C'est le designer, hein. Voilà.
Voilà, le designer d'Apple. L'iPhone, c'est lui. L'Apple Watch, c'est lui. Enfin, voilà, c'est une, une star du design, hein.
Les Mac.
Jonathan Ive, les Mac. Il est parti, on ne sait pas trop pourquoi, il y a quelques années d'Apple, parce que peut-être que divergences de design.
Il est d'origine britannique, donc il voulait passer plus de temps.
Il voulait retourner au Royaume-Uni. En effet.
Après, peut-être qu'il y avait une histoire avec Steve Jobs qui n'existait plus avec Tim Cook.
Enfin,
il y a plusieurs raisons.
Exactement. Et puis bon. Voilà, il a décidé de monter sa propre agence de design.
Oui, c'est l'artisan de la renaissance d'Apple. Hein. C'est grâce à lui, dans les années 90, avec l'iMac, avec l'iPhone après.
iMac colorés.
Le G-Mac, là, au début.
Qui a eu des produits qui faisaient envie, des produits Apple qui faisaient envie, avec un design absolument exceptionnel. Donc, c'est, comme tu disais, c'est pas n'importe qui. Quoi.
Voilà, et puis c'était surtout le duo Steve Jobs-Jonathan Ive. Hein. À l'époque, les keynotes les plus célèbres, on les voyait tous les deux qui évoluaient, etc.
Passionné de voiture et qui fait reparler de lui au moment où justement Apple est sorti de
c'est ça son exactement projet de voiture. Exactement. Et il avait dû sans doute travailler à ce projet puisque ce projet d'Apple Car était là depuis très longtemps. Ce qui est intéressant, c'est que Jonathan Ive discute avec Sam Altman depuis pas mal de temps. Sam Altman, le patron d'OpenAI, au sujet d'un objet. Alors au début, on parlait d'un iPhone dédié à l'IA, un smartphone dédié à l'IA. Aujourd'hui, c'est un objet parce que cette information revient, cette rumeur revient. Ils cherchent de l'argent pour développer une espèce de, comment dirais-je, de vitrine technologique d'OpenAI.
Un assistant personnel.
Un assistant personnel, c'est ça.
C'est plutôt ça qui apparemment ressort de des rumeurs, parce que finalement rien n'est officiel, mais ça serait un objet qui ne serait pas un smartphone, mais qui serait quand même un objet numérique basé sur l'intelligence artificielle d'OpenAI.
Alors évidemment, pourquoi on en parle? Parce qu'ils cherchent de l'argent. Et quand on cherche de l'argent, en général, ça se sait. Ils cherchent un milliard, je crois. Hein,
ils cherchent un milliard.
Sur ce sujet.
On n'en sait pas beaucoup hein, sur ce projet. Il est possible que ce soit peut-être un nouveau device, un peu comme Humane, l'AI Pin de Humane, ou bien le Rabbit Air One, qui est une invention qui remplacerait le mobile.
Le Humane dans lequel Sam Altman a investi d'ailleurs.
Dans lequel, il y a du GPT-4 d'ailleurs dans Humane. Et alors, c'est pas la première boîte dans laquelle il s'associe parce que Johnny Ive et Altman sont déjà associés dans WorldCoin. Je sais pas si vous vous souvenez de cette de ce device qui scanne l'iris.
Ah oui.
Pour permettre d'ailleurs d'évaluer si on est face à un vrai humain ou si on est face peut-être demain à un robot ou un humanoïde. Et donc ils sont déjà associés sur ce device là qui a aussi une crypto-monnaie.
Ça me fait tellement penser à Blade Runner.
C'est exactement ça.
Je sais pas si vous avez vu ce film qui moi m'a complètement traumatisé à l'époque, hein, tout début des années 80. Et pour détecter si c'est un humain ou un androïde, parce qu'à l'époque les androïdes étaient tellement parfaits qu'il fallait en fait leur poser des questions, je crois, et regarder leur pupille, l'iris. Ouais.
C'est là où il y a la femme robot qui pleure à un moment.
Oui, voilà, c'est ça. Et c'est incroyable, et c'est rigolo que WorldCoin soit un peu ça finalement.
Oui, c'est pas tout à fait ça, mais l'idée c'est effectivement de vérifier un certain nombre de marqueurs biométriques pour s'assurer qu'on est face à une personne vivante et à un humain en l'occurrence. Et donc ils ont investi. C'est quand même très visionnaire, hein, parce que probablement que derrière cette idée-là, l'objectif, c'est de pouvoir bien séparer le monde des robots de demain, le monde des intelligences artificielles, avec la production de contenu qui va être possible, avec tous les avatars qu'on va pouvoir créer, et le monde des humains. C'est un peu ça l'idée de WorldCoin.
Alors, c'est marrant que tu parles. Je t'interromps, ouais, François. Vas-y. C'est marrant que tu parles de robots parce que je me dis, tiens, il y a une semaine, on nous dit une rumeur. Margot Mann, là, qui est l'un des journalistes bien, enfin de chez Bloomberg, qui est souvent bien informé sur les, je sais pas, il a l'adresse où Apple met ses poubelles, donc il sait où aller fouiller exactement. Et bref, il nous parlait de Apple qui était en train peut-être de réfléchir à un robot. Et je me dis, tiens. Est-ce que finalement tout ça c'est pas une stratégie d'Apple la semaine dernière de dire tiens je sais qu'ils sont on va annoncer qu'ils sont en train de chercher de l'argent peut-être pour faire un robot, ben nous on va couper un peu l'herbe sous le pied en disant nous Apple on est aussi en train de chercher à faire un robot, enfin je sais pas, parce que
tellement d'annonces
autour de tout ça, mais alors dès le départ on avait parlé effectivement à smartphone, on y croyait très peu, hein, ouais. Parce qu'on se dit quand même le smartphone existe déjà, il y a quand même pas mal d'acteurs, il y a les Chinois en plus qui sont là
c'est
avec
impossible aujourd'hui avec de lancer un nouvel écosystème avec retomber sur Android.
Ou alors c'est racheter un ancien un Motorola qui traîne tout ça, enfin un ancien
là,
constructeur.
Pas un milliard,
mais non, moi je me dis il y a plein de choses. C'est amusant parce qu'il y a quelques jours, j'ai discuté avec un ancien dirigeant de d'Essilor, et Essilor ils sont en train de travailler sur tout un tas de choses. Évidemment ils travaillent sur les tout ce qui est vu, ils travaillent tout ce qui est aussi écoute, enfin amélioration de l'écoute. Et je me dis tiens bah, pourquoi ils s'allieraient pas non plus à des gens comme ça.
Bien sûr. Pour ils faire ont un partenariat avec Meta d'ailleurs sur les glasses.
Exactement.
Le Meta Glasses. Et d'ailleurs Meta compte introduire de l'IA dans les lunettes Meta qui sont entre autres distribuées par Essilor. Mais Essilor est un très bon exemple.
Et je sais que Essilor qui est valorisé quand même 100 milliards aujourd'hui, hein, c'est quand même une très 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 belle entreprise. Alors Essilor Luxottica qui est italienne, le management est italien, mais en tout cas ils sont très très forts sur les c'est eux qui ont sorti les premiers verbes. Enfin, déjà sur l'optique, ils sont très forts. Justement, après, on met des montures, on réduit tout. Ben voilà, on n'a plus besoin d'AirPods, on entend mieux.
Donc pour toi, tu irais plutôt vers une paire de lunettes.
Je me dis tiens, ça pourrait être. Après, il y a des industriels dans ce domaine. Il leur manque parfois un peu plus d'intérêt. Ils ont toute la technologie de miniaturisation du son, donc pour une meilleure audition. Ils ont de vue évidemment, ils connaissent tout ça. Et je me dis tiens, si on met de l'IA autour de tout ça pour discuter avec ces lunettes, pour peut-être mieux contrôler. Enfin voilà, je me tourne, j'ai la les Google Glass de l'époque.
Question à nos deux personnes qui ne portent pas de lunettes, Didier et Fred. Est-ce que vous seriez prêts à porter une paire de lunettes si vous aviez, on va dire, une valeur ajoutée à cette paire de lunettes, à savoir de l'intelligence artificielle ?
Alors, tu veux m'obliger à faire un aveu ?
Moi aussi.
Je porte des lunettes.
Ah oui.
Et là, j'ai des lentilles.
D'accord, ok.
Donc, ça ne me dérangerait pas d'avoir des lunettes avec
des informations. Mais tu pourrais abandonner tes lentilles pour porter des lunettes qui te donnerait, par exemple...
Ça marche mieux que les Google Glass, oui. celle que j'avais essayé il y a quelques années, qui était un vrai cauchemar. Oui, ça peut être intéressant pour retrouver son chemin dans la rue, pour avoir des informations complémentaires sur ce qu'on voit, pour avoir vraiment...
Tu es devant un monument, toc, on te donne les infos,
c'est ça, ou même,
que tu peux avoir en audio.
Il y a même des expériences très intéressantes en... en reconstitution en 3D, par exemple, des ruines antiques, oui, etc. Ça, les gamins, ils adorent, parce que quand ils arrivent devant des vestiges, c'est très difficile d'imaginer. Là, tu mets les lunettes et tu vois s'élever le temple, les arènes, etc. Donc, il y a beaucoup d'applications qui peuvent être intéressantes. Alors maintenant, est-ce qu'une boîte comme OpenAI a des compétences dans ce domaine-là? Pour l'instant, c'est assez limité. Il faut voir demain ce qui va se passer.
Oui, mais Ray-Ban Meta fait un peu déjà ça. Je ne sais pas si vous les avez testées, mais elles sont extrêmement légères. On dirait une paire de Ray-Ban traditionnelles. Vous avez
ça fait lunettes de soleil. Hein.
Alors, on peut changer les verres pour avoir des verres neutres. Pour l'instant, il n'y a pas d'IA dedans. Mais Meta est en train de travailler pour rajouter de l'IA. Il y a un truc très très simple, on peut commander à la voix, mais il n'y a pas véritablement d'IA.
Et pour compléter ce que tu dis, parce que j'ai lu en fait une note de blog d'un des ingénieurs de Meta qui dit que ces lunettes qui sont disponibles depuis quelques mois, c'est la deuxième version,
la deuxième génération,
qui permettent d'écouter des podcasts parce que vous avez des petits haut-parleurs. Elles ont des caméras qui vous permettent de filmer ou prendre des photos depuis votre smartphone, etc. Et bien là, les fonctionnalités qui vont être ajoutées, c'est, par exemple, je suis en train de regarder Fred et je lui dis qui j'ai en face de moi. Et là, la caméra va analyser Frédéric, envoyer l'information dans le cloud, récupérer une image qui va ressembler à toi et dire c'est Frédéric Simotel. Ouais. Et ça va être avec n'importe quoi, avec une assiette, quelque chose que vous êtes en train de manger, un monument, un panneau, etc. C'est la traduction. Donc,
il
n'y aura pas d'information de réalité augmentée, c'est-à-dire que vous n'avez rien qui va s'afficher. C'est la voix. Et le retour vocal, en tout cas, de l'intelligence artificielle qui apportera quelque chose.
C'est déjà le cas. Moi, j'en ai une paire.
Intéressant.
La deuxième version, j'en ai une paire. Et en vacances, c'est très utile pour prendre des photos, filmer, écouter de la musique, écouter des podcasts.
Et donc, il y aura une mise à jour d'ici la fin de l'année qui te rajoutera toutes ces fonctionnalités. Voilà.
Mais tu vois, c'est pour ça. Alors, je pense que ce qui nous perturbe un peu, c'est qu'il y ait Johnny Ive, comme on dit, qui est un designer.
Ça veut dire que ça va être un bel objet.
Ça. Donc on se dit, on part plutôt dans l'objet. Parce que sinon, l'association, moi je me dis, mais pourquoi il ne travaillerait pas avec des constructeurs auto, avec des constructeurs, on parle décideurs, des constructeurs. Et de dire, nous on a un concept, alors vous construisez des petits pins ou des petites caméras, on va vous aider à mieux les designer. Vous construisez des lunettes, nous on va vous aider à mieux les designer. Parce que Johnny Ive, c'est le designer évidemment du dessin, tout ça, mais aussi à l'intérieur, quoi, de l'architecture, pour essayer de miniaturiser, enfin de faire les circuits les plus miniatures possibles et tout ça. Mais un petit peu quand même. Mais c'est pour ça que moi, l'association avec Johnny Ive me perturbe un peu, parce que je dis, qu'est-ce qu'un objet pourrait inventer ? Parce que il suffit de se. Même avec des vêtements, quoi. On va aller voir des fabricants de vêtements.
De toute façon, on rentre probablement dans l'ère de l'incarnation de l'IA. C'est-à-dire que l'IA va commencer à pénétrer dans tous les objets de la maison, du quotidien, peut-être des lunettes, des vêtements, etc. Et c'est intéressant de voir tous les acteurs de tous les secteurs, alors évidemment de la tech, OpenAI, mais peut-être Apple, bien évidemment, mais peut-être aussi Google. Est-ce que Google va aller, ils ont commencé à le faire au travers de leurs enceintes, est-ce qu'ils vont aller encore plus loin et proposer peut-être des objets Google connectés, comme à un moment donné, ils avaient du Nest, comme à un moment donné, ils avaient de la caméra, ils ont toujours d'ailleurs. Et cette capacité d'avoir, au même titre qu'on a eu de l'internet, de la connexion dans les objets, on va avoir de l'intelligence artificielle qui va arriver dans les objets.
Ça peut être une belle enceinte, Didier. Une belle enceinte connectée à ChatGPT. Ça n'existe pas aujourd'hui, finalement.
On peut aussi, avec des hacks, tu peux arriver à faire des...
Ouais, mais il faut hacker, tu vois, enfin, c'est pas naturel. Et là, si tu rajoutes en plus un petit bonus, tu vois, tu entraînes ton large language model pour qu'il soit encore plus performant avec une enceinte connectée, par exemple, bien designée par Jonathan Ive, ça peut avoir du sens.
Moi, ce qui me perturbe, c'est cette levée de fonds. Pourquoi ils ont besoin d'un milliard?
J'allais dire exactement la même chose. Ouais.
Évidemment, Fred soulevait une question qui est est-ce que c'est finalement c'est pas leur intelligence qui va leur permettre de créer un studio peu de développement qui va permettre à des gens. Non, je crois qu'ils ont vraiment l'ambition d'avoir un objet, de créer une boîte. C'est intéressant d'ailleurs de voir les gens qu'ils ont approchés. Il y a SoftBank. SoftBank, c'est quand même le numéro un japonais de la robotique. C'est ceux qui ont racheté Boston Dynamics, Aldebaran et compagnie. Et puis c'est ceux qui ont dans leur portefeuille, ils ont ARM. ARM, c'est quand même le concepteur légendaire des architectures processeurs actuelles. C'est eux qui sont à l'origine notamment du M1 d'Apple et d'autres choses comme ça. Donc il y a une le rapprochement avec SoftBank laisse penser qu'on va vers un objet. Moi, c'est pour ça que je parlais d'assistant personnel numérique, de quelque chose qui serait peut-être dans la lignée effectivement du
PIN
ou du Rabbit.
Mais ça peut pas être un smartphone, ça n'aurait aucun sens. Non, il faut aussi que ce soit un objet complètement radicalement différent d'un smartphone, parce que un smartphone aujourd'hui, via une appli, on peut lui mettre toute l'intelligence artificielle qu'on veut. Il y a ChatGPT sur n'importe quel smartphone. On voit que le Galaxy S24 qui vient de sortir et qui cartonne d'ailleurs en vente. Ils ont rajouté une couche d'intelligence artificielle. Donc il faut sortir un autre objet.
Ce qui me perturbe, c'est qu'il n'y a pas de dépôt de brevet. D'habitude, ce genre d'initiative, il y a des fuites au niveau des dépôts de brevets, etc.
Là, il n'y a rien.
Il n'est pas impossible qu'ils aillent sur le champ de la robotique, hein, comme tu le disais. Peut-être que la robotique, humanoïde, voire robotique humanoïde, ce serait un vrai pari sur l'avenir, parce que je vous rappelle que Elon Musk a quand même annoncé qu'il y aurait en 2040 2 milliards de robots humanoïdes sur la planète. Donc cette vision, encore une fois,
et son fameux Optimus en plus, j'imagine,
c'est la vision, c'est à chaque fois les annonces.
On l'a vu hier au Rise IT, il était à Paris.
Oui, tu l'as pris en photo, il est impressionnant.
Mais c'est possible, hein, que ce soit
ce qui donnerait un argument supplémentaire au rapprochement avec SoftBank.
Moi je pense que c'est les deux pistes, hein, la piste robotique, et c'est pour ça que je rappelais tout à l'heure pour l'anecdote l'histoire d'Apple qui dit on va sortir un robot. Je m'y tiens comme par hasard. Une semaine avant, ils essaient un peu de en termes d'annonces, tout ça. Et puis le fait qu'il y ait Johnny Ive, c'est ça qui me perturbe. Parce qu'au départ, après, rien n'empêche à ce qu'ils aient une sorte de studio et qu'ils proposent à des fabricants de voitures, de lunettes, tout ce qu'on veut. Mais je suis comme toi, je relève, toi, le milliard. Je me dis, un milliard quand même, pourquoi pas 100 millions, quoi. Enfin, un milliard, c'est qu'ils ont. Alors c'est sûr que les ingénieurs coûtent très cher, que Johnny Ive, il en a emmené quelques-uns alors qu'il bosse un peu pour OpenAI aujourd'hui. Un milliard,
si tu veux créer un nouvel objet from scratch que tu vas pouvoir produire en quantité pour après le vendre, il faut beaucoup de trésor. Hein. Et le hardware, ça coûte très très cher.
Et puis autre chose, faut commencer à passer tes commandes auprès des fabricants de processeurs. Tu vas pas arriver au mois de septembre en disant voilà, j'aurais besoin de ça. Alors il faudrait qu'ils sortent au mois d'avril 2025. Les gens vont dire attendez, nos carnets de commandes, les usines elles sont en train d'être construites. Revenez en 2027 quand on repart. Enfin, j'imagine qu'il y a ça aussi. Oui, tu vois, faut trouver aussi le. Alors peut-être que ce milliard va servir à créer déjà l'usine qui va. Mais il y a ça aussi.
Non, mais s'ils ont SoftBank avec eux, ils auront sans doute le privilège d'ARM. Ouais.
Bon, on verra bien. Je pense qu'au bout d'un moment, ça va commencer à fuiter. Hein. Apple n'arrive pas à garder de secret. Comment OpenAI et Jonathan Ive pourraient y arriver ? Comme tu le dis, un jour ou l'autre, ils seront obligés de commencer à commander des composants, et là, on aura peut-être des fuites. C'est intéressant, hein, c'est excitant ce sujet. On se dit dans quelle direction peuvent-ils aller ?
Ce qui est intéressant aussi, c'est que la deuxième personne qu'ils ont contactée est une intime de Jonathan Ive, parce que c'est la veuve de Steve Jobs.
Waouh.
Qui a créé un fonds d'investissement, donc c'est intéressant.
Elle n'est pas un peu dans le côté frugal et tout ça, donc il n'y a pas ça.
Elle est plutôt baba cool, oui.
Ouais, c'est ça.
Ben comme l'était Steve d'ailleurs.
Ce qu'il a perdu d'ailleurs.
Et de toute façon, comme doivent l'être les technologies aujourd'hui, parce que si tu arrives avec un processeur qui consomme 2000 litres d'eau à la seconde et qui brûle 10 arbres, c'est très bon. Quoi.
Bon, écoutez, voilà, on reste sur notre faim, mais on peut imaginer, rêver à quoi pourra ressembler cet appareil. On en saura peut-être plus bientôt. Tiens, toujours du côté d'OpenAI. Vous savez que, évidemment, pour avoir ce résultat de plus en plus époustouflant de ChatGPT, bien sûr, il faut que ChatGPT s'entraîne. Et il y a cette information qui n'est pas passée inaperçue. Visiblement, OpenAI, mais aussi Google, c'est ça qui est intéressant, aurait aspiré, en quelque sorte, les données de certaines vidéos de YouTubeurs pour alimenter en fait leur large language model, parce que vous le savez, hein, toutes ces intelligences artificielles sont obligées de se nourrir soit d'images, soit de vidéos, soit de pomper carrément des sites entiers pour améliorer leurs statistiques. Et là, visiblement, YouTube aurait été aspiré. Enfin, pas toutes les vidéos. J'espère quelques-unes des vidéos de Tech & Co quand même, ça me ferait plaisir, mais bon.
Ce qu'ils ont fait, d'ailleurs,
c'est... Il faut que tu demandes un copyright, du coup.
Il faut que je demande un copyright.
C'est tout le problème. Ce qu'ils ont fait, c'est là le cœur du problème. D'abord partir des vidéos, transformer ces vidéos en texte pour pouvoir récupérer la donnée. Ouais. Donc ils ont utilisé un des algorithmes qui s'appelle Whisper, qui fait de la transcription.
Et c'est impressionnant d'ailleurs.
Dans les deux sens d'ailleurs. Ouais. Et qui est très impressionnant. Et donc ils ont scrappé, récupéré des millions de vidéos. Mais ce qui est aussi très étonnant, c'est
Un million d'heures, dit l'article.
C'est pas une nouvelle, hein. C'est-à-dire que c'est une vieille affaire, puisque dès 2021 ou fin 2021, début 2022, des universités et un projet en particulier, vous allez rigoler parce que le nom du projet, j'ai retrouvé ça aujourd'hui, s'appelle Merlot Réserve, donc rien à voir avec le vin, mais ce projet a déployé des scripts qui permettent de faire exactement ça, et c'est en open source, donc on peut aller sur internet
récupérer. Donc ça prend la vidéo,
ça la retranscrit, et derrière ils ont alimenté des modèles, donc à l'époque basés sur GPT-3 ou GPT-3.5, je pense plutôt aux GPT-3, pour pouvoir enrichir. Donc il n'est pas impossible que, puisque toutes ces universités, ces chercheurs coopèrent aussi beaucoup dans les équipes de OpenAI et de Google, ils aient utilisé Merlot Réserve dans le cadre de leurs travaux pour récupérer de la data issue de YouTube. Ce qui pose un vrai problème, quand même.
Bien sûr, et on revient à notre sujet d'hier, hein, sur ces stars de la chanson américaine qui, ne sont pas contentes de voir pomper en fait toute leur musique après recracher par l'IA d'une manière ou d'une autre. On est à peu près dans le même sujet.
Sauf que là, Google... il y a deux aspects. Il y a Google et...
OpenAI.
Google dit qu'il n'utilise les vidéos que des créateurs qui sont d'accord pour qu'on exploite leur contenu. Bon, à vérifier, mais au moins, ils ont ça. Et ce qui est intéressant, c'est que Google a déjà... vous vous rappelez, l'an dernier, ils avaient changé les conditions d'utilisation, enfin la licence de Google Maps, pour que les gens, pour qu'ils puissent importer les critiques des restaurants que rédigent les gens pour alimenter l'intelligence artificielle. Wow. Donc c'est un peu le même genre. Ils ont besoin de plus en plus de données dans tous sens. Ils vont chercher, c'est leur Wikipédia, les livres en libre accès, tout ça, ça leur suffit pas. Donc plus ils ont de contenu, mieux c'est. Mais ce qui est intéressant, c'est que OpenAI le fait aussi. Le journaliste qui a interviewé les gens de Google leur a dit mais vous laissez faire les autres, ah bon non on n'est pas au courant, etc. Et en fait il est question que Google soit parfaitement au courant de l'initiative d'OpenAI, mais qu'il l'ait laissé faire pour des raisons de...
Oui, de...
D'accord, de...
D'accord, bien
et
sûr.
Que, et puis qu'eux font un peu la même chose, alors qu'il y a des vidéos YouTube qui sont protégées, tout ça. Mais c'est là où je trouve qu'il y a beaucoup de zones d'ombre juridiques, parce qu'il y a la règle, alors, je ne saurais pas bien la traduire, c'est le fair use là, aux États-Unis, c'est-à-dire qu'on peut utiliser des vidéos, enfin des documents protégés, sous réserve qui viennent alimenter quelque chose qu'on veut illustrer. À l'ambiance. C'est déjà pour... je traduis ça en langage français, mais en langage de droit américain, chaque mot doit compter, et je pense que les avocats savent très bien tourner ça à leur avantage. Et c'est tout ça qui est un peu complexe. Et on sait qu'aujourd'hui, YouTube avait interdit l'accès à des robots, des scrappers, enfin tout ce genre de choses. Bon, visiblement, ils ont réussi à contourner ça, donc ils l'ont fait... entre guillemets légalement, enfin ils ont dû contourner le texte, le droit d'accès, c'est pas illégal mais c'est pas légal non plus, enfin tu vois c'est toute cette zone d'ombre juridique sur lesquelles autant Google que OpenAI se sont entraînés. Qui est-ce qui peut râler? C'est tous ceux qui ont des vidéos YouTube avec qui théoriquement ont signé avec le refus d'inclusion ou en disant voilà c'est du copyright. On les a pas encore beaucoup entendus là. On entend les musiciens, hier on en a parlé, mais pour autre chose. C'est assez étrange. Alors, c'est le New York Times qui ressort tout ça, mais je trouve que...
Google, c'est un peu des gens du Far West. Hein. Vous vous rappelez l'histoire des Google Cars qui se baladaient partout et qui numérisaient toutes les rues et les maisons et les bâtiments publics, alors que c'est totalement interdit. Enfin, je veux dire, il faudrait demander l'autorisation.
Et quand tu remontes encore plus dans le temps, rappelle-toi, les visages qui étaient sur Google Maps, ils ont été après même, obligés de les flouter. Oui, ça avait créé des scandales.
Mais je continue. Mais leur moteur de recherche, c'est ce qu'ils ont fait aussi.
Et je continue avec les fameux Google Books, c'est-à-dire ils ont numérisé des quantités de livres jusqu'à ce qu'il y ait des gens qui disent, mais attendez, c'est des livres
qui sont sous... Ils ne sont pas libres de droit.
Ils ne sont pas libres de droit. Oups,
voilà.
La théorie de Google, c'est mieux vaut demander pardon que demander l'autorisation.
Ouais, c'est clair.
Pas que Google d'ailleurs. Ouais. Beaucoup d'acteurs.
C'est intéressant cette posture d'ailleurs intellectuelle. On voit que les géants de la tech ont souvent cette posture-là.
Ouais.
Parce que pour avancer vite, c'est un peu des bulldozers.
Les disrupteurs.
Et voilà.
C'est les disrupteurs.
Et parfois, ils mangent la ligne jaune, on va dire.
Ouais, là, ils l'ont franchi allègrement, parce que de la part de OpenAI, c'est du vol manifeste quand même, de contenu. Et c'est pas le seul contenu. On va avoir toute une série quand même de procès qui vont arriver. On a eu Shutterstock. On va avoir toute une série de procès qui vont pas forcément se régler par des amendes, mais qui vont se régler par des deals. Ils vont se mettre d'accord. Il va y avoir des gros chèques derrière. Et puis tout ça va finir par trouver un équilibre. La jurisprudence va arriver, mais on est encore dans la phase du Far West.
Ouais.